enclavé d'Oettingen. Vous pourriez déjà me parler de ce lieu géographique tel qu'il existe, dans son histoire, déjà le situer. Et pourquoi ce lieu aujourd'hui?
L'Oettingen, c'est tout simplement en allemand Lorraine. Simplement la Lorraine, c'était une très grande province française. Ça allait de la...
L'Oettingen, c'est l'Autharingie.
C'est la racine de l'Autharingie, comme Lorraine. L'Autharingie, etc. La province française qui s'appelait Lorraine, elle allait de la Bourgogne jusqu'au au-delà des Vosges, en tout cas jusqu'au confins des Vosges avec l'Alsace. C'est d'ailleurs une province qui a collaboré avec les Allemands à la fin des guerres de religion pour massacrer les paysans rebelles en Alsace. Bon, on va ensuite, il y a eu ces Polonais qui ont fabriqué la place Stanislas à Nancy, etc. Nancy et Metz, c'est les deux principales villes de la Lorraine. Il y avait avant, il y avait les trois évêchés, Metz, tout le Verdun. Mais quand on appelle le film Lothringen, c'est en allemand, c'est parce que pour les Allemands, quand ils disent Lothringen, c'est pas du tout la province française, c'est toute cette grande province française qui était une des plus grandes. C'est une petite partie de cette Lorraine, et cette petite partie s'éteint de la frontière tout près de Sarrebruck, c'est Feuerbach, donc disons de la frontière allemande à Feuerbach, qui fait que j'avais eu, en passant par le plateau Lorraine jusqu'à la frontière luxembourgeoise, c'est-à-dire la frontière qui arrive tout de suite au-delà de Hayange, à Gondange, Thionville, au Luxembourg. Et alors, le dernier plan avant la forêt, là, ça s'appelle Moyeuvre Grande, et ça, c'est ce qu'on voit au fond, à l'horizon, ce qui fume encore, les usines qui fonctionnent encore, c'est déjà des usines luxembourgeoises, alors que les rails du côté français sont rouillés, c'est les rails qui charriaient le minerai de fer, qui, jusqu'il y a encore quelques années, c'était une région extrêmement riche. Et c'est cette bande de terrain-là, au milieu de laquelle se trouve la seule grande ville qui a été annexée en même temps que toute cette bande de terrain, qui s'appelle Metz, c'est-à-dire entre Sarrebruck et Luxembourg. Alors il y a le plateau Lorrain, il y a Metz, et puis il y a la vallée de la Moselle, une partie de la vallée de la Moselle, et puis il y a la vallée de l'Orne et de la Fensch, qui sont du reste de la Lorraine sidérurgique, et en commençant à la frontière de Sarrebruck, il y a déjà les mines de charbon et de fer et de charbon. C'était Sidelor, c'était Litvadel, c'était tout le bazar. Bon. Et les Allemands ont bien été obligés d'accepter Metz au milieu de ce cadeau industriel qu'on leur a fait, cette richesse industrielle, appelons-la comme ça, puisque c'était pour compenser le manque d'or de la faillite française après la défaite de Sedan, ça suffisait pas à l'or qu'ils avaient demandé comme dédommagement. Alors on leur a offert ça en plus, mais ils n'en voulaient pas tellement. Même Bismarck était un peu gêné, il disait « Metz, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont nous emmerder, ces gens-là. » Sont vraiment pas disposés à être allemand, etc. Bon, mais n'empêche que ça a duré 35 ans, tout ça. C'est quand même long. Hein. Plus de 35 ans. De 71 à 1918. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et c'est quand même une nuit qu'une bourgeoisie qui ne fait que des conneries jusqu'à déclencher une guerre qu'elle bat, précédemment avait fait des conneries économiques, puisque c'est pour ça qu'ils ont déclenché la guerre, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ont fait plus ou moins faillite, ils ont rêvé de révolution industrielle en imitant les Allemands, la Roure et les Anglais, etc. Mais ça n'a pas marché, en tout cas très mal. Bon, alors ensuite, comme d'habitude, la fuite, c'est dans la guerre. Et ils perdent cette guerre. Bon, les vainqueurs exigent des dédommagements, rien de plus normal. Alors on leur donne de l'or, et l'or ne suffit pas, on leur donne les mines de fer et de charbon, et la sidérurgie. Bon, Versailles pour couronner le petit roi de Prusse, empereur d'Allemagne. Ce qui est un beau cadeau aux Allemands d'ailleurs, parce que le reste de l'Allemagne n'avait pas du tout envie d'un empire allemand. La Rhénanie, etc., la Souabe, la partie au nord, vers Hambourg et tout ça, n'avait pas du tout envie de se faire annexer par la Prusse et de devenir un empire allemand. En Rhénanie, ils ont toujours presque détesté les Prussiens. Hein. Alors ce petit roi de Prusse, avec la bénédiction de M. Thiers et de la bourgeoisie française qui en partie avait fui en ballon comme M. Gambetta, ou en partie avait abdiqué comme Napoléon le Petit, se voit offrir un troisième cadeau. Et ce troisième cadeau, c'était aussi pour remercier de l'aide qu'ils avaient apportée pour écraser la dernière résistance après que Bazaine avait été contraint par le gouvernement lui-même à capituler à Metz. Le dernier foyer, c'était Paris. Et il se trouve que ce foyer-là, ça s'est transformé en commune de Paris. Mais enfin, c'était pas ça au point de départ. C'était des gens qui acceptaient pas de se faire envahir après la défaite de Sedan, qui pensaient qu'on pouvait encore résister. Mais au contraire, ces gens qui avaient mal calculé leur coup et qui avaient fait faillite et qui avaient en plus essuyé une défaite cinglante, ces gens-là prétendaient capituler plutôt que nécessaire, et peut-être d'une manière qui n'aurait pas été nécessairement nécessaire. Et les Parisiens donc qui ont résisté, bon, lentement c'est devenu la commune de Paris, et là il fallait faire quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Bismarck, qu'on voit, bon, il y a c'est pas seulement chez Brest, mais c'est une vieille idée, c'est pas seulement une métaphore. Hein. Monsieur Thiers et Bismarck étaient sur les collines de Saint-Cloud à regarder brûler Paris et les communards se faire massacrer. Il y en avait 30 000, c'est pas mal. Et c'est à partir de là, c'est sur ces fondations-là, de 30 000 cadavres de Parisiens parmi les meilleurs, que moi je prétends que ceux-ci sont les fondations de l'Europe qu'on est en train de nous parfaire. C'est le premier dégraissage, ça. C'est le premier dégraissage. On appelle ça dégraisser de nos jours. Alors, de nos jours, on dégraisse partout, dans les usines. Mais d'abord, on a dégraissé justement dans les mines de fer et de charbon et la sidérurgie de la Moselle. Ensuite, on a dégraissé les paysans en pagaille, mais ça durait depuis quelques siècles. Mais enfin, on a parfait le travail, parce qu'enfin, il y avait 20 millions de paysans en France, et on se retrouve avec... Certains disent 60 000, d'autres 70 000 paysans. 700 000 ou 708 000 ou 800 000 paysans. Bon. Voilà, c'est tout. Premier dégraissage. On a fait du savon avec les cadavres des communards. Et sur ce savon, on a fondé l'Europe nouvelle, qui était l'Europe de la bourgeoisie industrielle. Voilà. Et la bourgeoisie industrielle, ensuite, il y a eu quelques avatars avec le nazisme. Enfin, c'était toujours la même chose. De la roue s'est servi des nazis pour durer.
Mais non, il y a un truc que moi je voudrais dire qui n'a pas de rapport à ça, mais je voudrais dire parce que j'ai remarqué que les gens ne font pas très attention depuis le film.
Ça s'arbrouille Metz, ça fait 80 km, Metz. Luxembourg, ça fait 60 km. C'est pour vous donner une idée de la question de départ, cette bande de terrain. La largeur est beaucoup moins... Bon.
Parce qu'il y a une chose qui est très difficile pour les gens au cinéma, c'est la géographie. Le début du film, premièrement, cet homme sur son cheval, sur son socle, c'est pas en Lorraine ni à Metz, hein. C'est l'empereur, justement celui qui a été fait
l'empereur à Versailles. C'est le cas dans Libé qui a écrit en disant après un paysage messin. C'est pas du tout un paysage.
C'est le confluent de la Moselle qui se jette dans le Rhin. Et quand qu'on passe le bateau et qu'on tourne vers la gauche, donc on est sur
la Moselle, vers l'horizon.
Vers la Lorraine.
Et avant d'arriver à Metz, il y a une autre ville, qui est une ville allemande, qui s'appelle Trèves, qui était une ville
cet empereur-là, c'est le roi de Prusse, sur ce cheval. C'est un monument qui avait été détruit pendant la guerre et que...
Non, non, il a été détruit après la guerre. Même si je me souviens bien, les Américains qui l'ont détruit. Ils l'ont fait sauter.
Oui, avec l'aide des Allemands qui en avaient un peu marre. Ouais, les Allemands, bon, justement, de la, du Rhin. Et...
Il restait le socle. Le
socle a été là pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'un éditeur célèbre de la région
paye la statue qu'on a refait.
Qui était nostalgique, paye cette restauration. Alors ce qu'on voit au début, c'est ce bonhomme sur son cheval, on va sur le Rhin, on quitte le Rhin pour entrer sur l'embouchure de la Moselle dans le Rhin, et on remonte le cours de la Moselle, et on s'arrête là. Et là arrive la carte de Metz avec les environs, et là, ouais. Faut préciser que ça, c'est pas du tout un... Alors, ce que ça a en commun, ce socle, et cette situation, et là, c'est l'architecture, parce que c'est ce qu'on va retrouver à Metz, c'est ce qu'ont construit ces gens à Metz en 1900... C'était fini en 1906, 1901, 1902, c'est-à-dire la gare, la poste, un temple protestant, tous dans le même style néo-roman. Même style que ce socle. Ouais. Mais il faut préciser que cette géographie-là, c'est le Rhin, ça n'a rien à faire avec la Lorraine. Et c'est ensuite l'embouchure de la Moselle, et la Moselle qui... Alors Trèves, c'était non seulement une ville romaine jumelée avec Metz pour les Romains, mais c'est également la ville natale de Karl Marx, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est ce que vous vouliez dire.
Non, je voulais dire que pendant ce temps-là, on entendait une musique de M. Franz Joseph Haydn, et que cette musique, c'est l'origine du Gretchen du Borales, pour ceux qui ne savent pas.
Il y a toujours une période aussi très inscrite dans un lieu, un espace. Là, bon, c'est Maastricht, c'est l'Europe qui est en train de se construire.
Alors,
parce que
on a c'est des humeurs, c'est des réactions, c'est des sentiments, c'est des colères. Que ces colères-là, la plupart du temps, une origine politique, bon d'accord, mais on se dit pas on va faire un film sur l'Europe de Maastricht, c'est pas possible, ça est beaucoup trop prétentieux, ambitieux, et on peut pas mettre tout dans un même panier à papier. Il se trouve que c'est là, à la base, c'est tout, mais le point de départ, c'était de raconter une histoire d'une fille qui, au bout de 35 ans, dit non, c'est tout. Elle dit non, voilà. Elle dit non, elle dit... Et d'ailleurs, pas contre une Europe hypothétique. Elle dit, je vous estime, je vous garderai une grande amitié, mais je ne peux pas être une Allemande et je ne veux pas vous épouser, c'est tout. Elle est pour sa frontière et sa différence. Elle ne veut pas faire... voilà. C'était ça le point de départ. C'était de... Après tant d'années passées à Munich, quand même 11 ans en Allemagne, et un retour pour le Kafka, et tant de films sur ce qu'il y a de meilleur dans la culture allemande, qui va de Vol à Kafka en passant par Brecht et Schoenberg. Et Hölderlin surtout, c'était quand même de relever la provocation de la soirée, et Bar pour ne pas l'oublier, de relever la provocation de ces gens de Sarrebruck qui un beau jour s'adressent à nous parce qu'ils avaient envie de faire une soirée thématique ridicule sur Arte, qu'ils ont d'ailleurs fait, et qu'ils apprennent à la dernière minute qu'il y a là un bonhomme qui s'appelle Strom, qui était né à Metz, alors il y en a un qui était un peu plus gentil et moins con que les autres, il me téléphone et me dit... Je vous propose de faire là ce que vous voulez, 2 heures, 3 heures ou 3 minutes. Moi j'ai dit non, foutez-moi la paix avec vos soirées thématiques, je trouve ça complètement con. Et la Lorraine, je ne veux pas, elle m'a fait trop de bien pour que j'en dise du mal, elle m'a fait trop de mal pour que j'en dise du bien. La Lorraine, je dois 11 ans d'exil. Parce que c'est le tribunal des forces armées de Metz qui m'a condamné par contumace à 1 an de prison, et ensuite j'ai été pendant 11 ans dans le livre des recherchés à la frontière. Bon. Et puis au bout de quelques jours, je me dis, tiens, ben, je vais leur jouer un tour, puisqu'ils veulent un film sur la Lorraine, je vais leur faire un truc qui est un film anti-prussien, oui, qui est un film contre l'Europe et contre... Voilà, c'est ça.
Qui est là derrière, là? La fureur et la tristesse et la colère quand on a vu que les Français, ça a failli basculer, ils ont failli voter non, et qu'ils votaient oui quand même.
J'ai vu de braves amis à qui j'ai appelé, à qui je téléphonais de Rome en disant ah, vous allez voter non. Ils me disaient on peut pas parce que Le Pen et ses sbires vont voter non. C'est tout de même pas une raison suffisante, nom de Dieu.
Simple règle, vraiment de bon sens. Et à bas, quand on n'a pas son âge.
attends, l'âge de raison, c'est de savoir que quand tout le monde dit oui, ça cloche, faut se méfier, ça va pas. Ça, c'est quelque chose.
Parce qu'on vit dans un monde où la propagande est souvent écrasée.
Donc le
Trigone,
c'est un film qui
affirme
un peu ce qu'on fait.
C'est l'identité. Alors j'ai appelé ce monsieur, je lui ai dit, bon, ben, je vais faire vous faire un film, ça sera très court, je lui ai même dit que ça serait seulement 10 minutes, je ne savais pas. Mais ça sera un film, si vous voulez que j'exagère un peu, ce sera un film anti-allemand. Et je suis seul à pouvoir me le permettre parce que on s'est assez occupé de culture allemande et avec combien d'amitié et d'amour pendant combien d'années. Et par conséquent, là, je me paye le luxe de faire un film anti-allemand parce que historiquement, il y a quelque chose là-dedans. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Et il m'a dit, bah, en fait, donc, comme c'est un monsieur tolérant, probablement qu'avec un fonctionnaire culturel français, ça n'aurait pas marché parce que ceux-là sont beaucoup moins tolérants.
Il y a encore quelques complexes, c'est-à-dire c'est un prix payé très cher pour être complexé, mais enfin au moins ils le sont. Encore.
Parce qu'il prenait une voix qui était sensiblement différente de celle de l'impressionnisme, tout en faisant partie de cette mouvance.